Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Monsieur Da, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information de 18h, présentation de Fils Adam Sirfou. Au sommaire de cette édition, fin hier à Marrakech des travaux de la COP 22. Quel bilan retenir de cette COP de l'action? On fera le point avec notre envoyé spécial depuis Marrakech. Le ministre de la Santé, Dr. Ilyas Mamman, interpellé ce matin par les députés à l'Assemblée nationale sur la question des grèves récurrentes des médecins spécialistes. Vous entendrez le ministre dans ce journal. Enfin, notre volet reportage porte ce soir sur l'opération de récupération de la forêt de Takoudé dans la région de Maradi. Ce sera en partie magazine de ce soir. Après l'unité affichée dans le texte de la proclamation politique de Marrakech qui clôturait la COP 22 ce vendredi, place aux réactions et au bilan de la COP de l'action. Nous retrouvons notre envoyé spécial Alassane Kouzi Mahmadou. Alors Alassane, tous les négociateurs ont maintenant rendu leurs conclusions. Le groupe Afrique a rendu sa copie cette nuit. Que peut-on donc retenir de ce sommet mondial sur le climat?
Si tous les acteurs saluent l'appel de Marrakech à l'engagement politique maximal et irréversible contre le réchauffement climatique, les grandes organisations environnementales restent néanmoins nuancées sur la concrétisation des accords de Paris. Il est vrai que l'élection de Donald Trump a détourné le cours des négociations. Les États développés sont arrivés les mains vides, déplore Arnel Lecomte de l'association Oxfam. Pour le moment, le fonds vert destiné au financement des projets d'atténuation et d'adaptation ne représentera que 20% des 100 milliards promis chaque année à partir de 2020.
Si on vous suit bien à la fin, c'est là un bilan contrasté. Des politiques satisfaits, mais des acteurs de la société civile plus perplexes.
Oui,
la COP de l'action a-t-elle tenu ses promesses?
Je dirais non. Plus qu'une COP de l'action, Marrakech aura été une COP de la transition, malgré le coup d'accélérateur décidé en début des négociations. Initialement prévu en 2020, l'accord de Paris entrera en vigueur dans sa forme définitive en 2018, deux ans plus tôt. Le réseau climat et développement qui regroupe des acteurs de la société civile francophone parle d'un rendez-vous manqué pour l'Afrique. Après deux semaines de négociations, les pays n'ont pas réussi à atteindre les résultats concrets pour traduire en actes les engagements pris sous l'accord de Paris, regrette le réseau climat et développement.
C'est beaucoup de travail en perspective, Alassane. Le chantier est vaste. Alors, quel est le calendrier?
Oui, beaucoup de points ne sont pas toujours formalisés, tout comme l'échéancier des engagements et des contributions financières réclamées par le groupe Afrique et le groupe G77, le groupe des pays avancés. Dans une déclaration rendue publique, il vous souviendra, de la nuit de vendredi à samedi, le président du groupe Afrique, Seminafo, s'est félicité des initiatives parallèles au Fonds vert pour aider à la mise en œuvre des programmes nationaux, notamment les projets liés à l'énergie. Mais il a également appelé les pays industrialisés à respecter leurs engagements pour faire face à l'urgence des pays africains. Il reste pour le moment deux ans de chantier pour trouver un accord avant l'entrée en vigueur définitive des accords de Paris. Il faut noter que la COP 23 aura lieu dans un an à Bonn en Allemagne sous la présidence des îles Fidji.
Alassane, nous vous remercions pour tous ces détails. La question des grèves récurrentes des médecins spécialistes était à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale ce matin. Le ministre en charge de la Santé, Dr. Ilyas Mamman, a en effet dû répondre à une interpellation des députés sur cette question. Écoutons le ministre Ilyas Mamman qui estime que les médecins doivent regagner leur poste dans les centres de santé où ils ont été affectés.
Avec tous les moyens colossaux que le gouvernement a mis durant le premier mandat, il s'agit aujourd'hui de les capitaliser. Ça doit fonctionner si aujourd'hui les textes sont respectés. Les gens qui sont affectés doivent regagner leur poste et faire en sorte que tous les centres de santé du Niger, même pas Niamey, qu'ils puissent avoir par rapport à leur charge de travail des agents. Puisqu'on a des agents, on a passé de 350 médecins en 2011 à aujourd'hui 1124 médecins. Au total, quand vous prenez durant les cinq dernières années, là, il y a eu près de 5000 agents de santé qui ont été recrutés confondus, qui sont mal repartis, qui sont concentrés à Niamey. Donc c'est cet obstacle de Niamey qu'il faut lever. Il faut que les gens aillent en province, puisque c'est des gens qui ont été payés, qui sont pris en charge par l'État. Il n'y a aucune raison à à ce que l'État paye un agent qui refuse de regagner ce service. Actuellement, ils ont déposé un nouveau préavis de grève. On va les appeler, on va continuer les discussions parce que la grève, même si c'est une seule personne qui grève, c'est pas bon pour le pays.
Le ministre de la Santé, Dr Ilyas Mamane, que vous venez d'entendre, il était au micro de Laurent Ibrahim Gado. L'Organisation de défense des droits et libertés humaines, ONDLH, se prononce sur les conflits entre éleveurs et agriculteurs enregistrés ces derniers temps dans plusieurs localités du Niger. L'ONDLH dénonce et déplore ces actes. C'est en tout cas ce qu'explique Aboubakar Issa, président de cette organisation. On l'écoute.
Si vous regardez les cas les plus culminants, c'est-à-dire Toda en 91, Zouzou Sané en 2012 et tout récemment Bangui, tel que ça a été organisé, et c'est abominable. C'est-à-dire la façon dont les agresseurs ont traité leurs victimes, cela ne peut être accepté dans un état civilisé, dans un état dit de droit, et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faudrait attirer l'attention de l'État, des organisations non gouvernementales et des communautés. Pour les communautés, nous avons dit, malgré le mal qu'ils ont subi, de persévérer dans le recours aux voies légales. Et à l'endroit des organisations, il faut qu'elles se mobilisent, il faut qu'elles s'expriment. Il faut que l'État mette en place une sorte de veille de proximité pour veiller dans n'importe quelle région à ce que ces conflits-là ne puissent se poursuivre.
Vous venez là d'entendre Aboubakar Issa, président de l'Organisation de défense des droits et libertés humaines, ONDLH. En bref, la direction générale de la police a convoqué la presse hier pour apporter un démenti officiel à une rumeur véhiculée depuis 3 jours sur les réseaux sociaux, faisant état, je cite, de la présence à Niamey d'un véhicule de couleur rouge bourré d'explosifs. Le véhicule en question a été retrouvé et inspecté, indique la police. Il est hors usage depuis plus de 6 mois et ne contient pas d'explosifs, à fin de citation. Le porte-parole de la police, Adili Toro, a mis en garde contre, je cite, la psychose délibérément recherchée par ceux qui véhiculent de pareilles informations. La salle de réunion de la direction régionale de la santé publique de Maradi a servi de cadre ce matin à la réunion régionale de l'évaluation de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui s'est déroulée du 12 au 15 novembre, qui a concerné près d'un million d'enfants. Cette vaccination a été couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage des enfants. Faisons le point avec Moussa Saleké au micro de Mohamed Mamad.
Si les résultats obtenus nous réconfortent en termes de nombre d'enfants vaccinés, supplémentés et déparasités par rapport à la cible totale de la région, il n'en demeure pas moins que des défis restent encore à relever, notamment l'amélioration de la communication pour une meilleure sensibilisation de la population pour la poursuite des activités de la vaccination de routine. La vaccination des populations nomades, le respect de la stratégie porte à porte, la supervision de proximité et enfin, 6, la question des cas de refus. Malgré les progrès réalisés, le chemin reste encore long pour répondre aux exigences d'éradication poliomyélite.
C'était là le secrétaire général de la région de Maradi, Moussa Saleké, au micro de Mohamed Mamane. À présent, notre petite pause.
Studio Kalangu.
À Niamey.
Sur la radio alternative.
99.4 FM.
Et sur la radio Ampani.
100 FM.
À Minesorwa.
Sur la radio Mangari.
95.1 FM.
À Birningaouri.
Sur la radio Maraba.
95.1 FM.
À Dolbel.
Sur la radio Gorwol FM.
95.1 FM.
À Saï.
Sur la radio de la Tapoa.
99 FM.
À Mayaï.
Sur la radio Anouri.
99 FM.
À Tamaski.
Sur la radio Karkara.
98 FM.
À Bouza.
Sur la radio Takarkara.
99 FM.
À Magaria.
Sur la radio Kitari.
101.5 FM.
Studio Kalangu, au rythme du Niger.
Studio Kalangu.
À présent, la partie magazine de ce journal, le changement climatique à travers la sécheresse et les vents forts conjugués à l'action de l'homme, caractérisée par le surpâturage et l'abattage des arbres, ont eu un impact négatif sur la forêt classée au sud de la commune de Gaby. En effet, avant 2014, la faune et la flore ont complètement disparu de ce grand espace qui jadis faisait la fierté de Maradi. Au vu de la situation critique, une restauration s'imposait. C'est ainsi que sur le fonds de l'État propre a investi 20 millions de francs CFA pour une récupération de la terre. Reportage de Mohamed Maman.
Nous foulons comme ça sous nos pieds l'herbe bien reproduite en pénétrant dans ce vaste espace de 100 hectares. Sur le site récupéré de Takoudé, herbes et arbres sont de retour, ce qui contrastait avec le passé. Issa Nalokoyo, chef service de l'environnement de la commune de Gaby, nous explique le spectacle de désolation que présentait avant cette forêt.
Il n'y a aucune espèce herbacée ni ligneuse. Donc le site était complètement dégradé, c'était nu. Il y a le surpâturage et aussi il y a l'effet de l'homme. Et il y a aussi l'effet climatique, donc la sécheresse.
C'est en 2014 que l'État du Niger s'est pleinement engagé à récupérer cette forêt qui se dégradait de jour en jour. Issa Nalokoyo nous explique en quoi consistait la récupération de la terre.
Il y a surtout les travaux de récupération des terres, donc les demi-lunes. Leur importance est surtout pour un peu réduire le ruissellement des eaux. Et encore, ça retient l'eau et ça fertilise encore le sol. Et aussi, il y a eu les plantations et l'ensemencement des espèces herbacées. On a eu à planter deux espèces qui sont l'acacia sénégal, le bohinia rufescens. Pour ce qui est des herbacées, on a eu quand même à mettre l'acacia toura.
Aujourd'hui, 3 ans après cette récupération, le résultat est concluant. Pour gérer ce grand espace vert, un comité est mis en place. Ce comité est composé d'hommes et femmes des 6 villages qui se partagent la forêt. À la tête de ce comité est désigné un président d'honneur choisi parmi les 6 chefs de village. Mais comment protéger cette forêt des prédateurs que l'air fraîche attire? La solution a été trouvée avec l'implication du projet PRODEF. Ainsi, elle a été décidée de mettre en place des brigadiers. Cela a nécessité au début la mise en place d'une formation et la dotation de l'équipe en tenue et autres équipements. Aïda Ndila est la seule femme brigadier. Elle explique comment il surveille cette forêt.
À plusieurs reprises, nous avons pu intercepter des gens qui s'introduisent dans ce périmètre. Parfois, ce sont des éleveurs de vaches ou des chameaux. Nous les conduisons auprès de nos chefs qui les amènent fortement. C'est pourquoi maintenant, dès qu'ils nous voient, ils s'enfuient à toute jambe. Notre travail se fait par rotation comme nous avons 3 groupes. Il y a ceux qui montent le matin de 8h à midi. Un autre fait la relève ainsi de suite jusqu'au soir. Nous protégeons très bien notre forêt.
Avec la récupération et la protection de cette forêt, les populations environnantes tirent grand profit. Ibrahim Marou, membre du comité de gestion de cette forêt, nous donne plus de précisions. Tu vois ce terme? Nous l'utilisons dans la construction de nos paillotes et dans l'alimentation du bétail. Il y a aussi les fruits de certains arbres que nous cueillons pour bien nourrir nos animaux. Aujourd'hui, les fermes en tirent un grand profit dans la vente de ces fruits. Celles qui n'avaient rien auparavant possèdent aujourd'hui un troupeau de bétail, rien que grâce à la vente de ces fruits. Un autre avantage non moins important est tiré, n'est-ce pas, Issa Nalokoyo?
Vous-même, vous avez vu l'impact de ces travaux qu'on a eu à faire pour récupérer ce site. Il y a eu aussi le retour de la faune sauvage. Parce qu'en 2015, il y a eu même des gazelles qui ont passé au niveau de ces sites. Et maintenant, il y a les écureuils, les lièvres, les serpents, là, on n'en parle pas. C'est très important pour la restauration, parce que tant qu'il n'y a pas leur abri, ces animaux sauvages vont disparaître.
Il faut noter que les travaux de récupération ont permis en 1 mois la construction de plus de 30 000 demi-lunes, en mobilisant 100 hommes par jour, tous recrutés des 6 villages qui se partagent la forêt. Ces hommes ont été rémunérés à travers le système de Cash for Work. Mohamed Maman, depuis Maradi, pour le studio Kalangou.
Et c'est sous ce reportage que prend fin ce journal. Merci de votre attention. Rendez-vous demain à la même heure pour d'autres points sur l'actualité nationale. Au revoir.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.